Bonjour Pierre Gardère.
Bonjour.
Pierre Gardère, vous êtes diacre dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Vous êtes secrétaire de la commission des évêques français et espagnols, des diocèses par lesquels passe le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes également membre de Web Compostela. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. On vous rencontre aujourd'hui pour nous parler des chemins de Saint-Jacques, de la pastorale qui existe sur les chemins de Saint-Jacques, parce que nous sommes en pleine année jacquaire. Alors, avant d'expliquer de quoi il s'agit, peut-être redire ce que sont les chemins de Saint-Jacques. On a l'habitude d'évoquer la performance sportive des chemins. On sait aussi qu'il y a beaucoup de touristes sur les chemins. Mais les chemins de Saint-Jacques, ce ne sont pas que des sentiers sportifs. Hein.
Non, surtout pas, non. Au départ, le chemin de Saint-Jacques, c'est d'abord un chemin de pèlerinage. Et bon, on tient absolument à ce que ça le reste. Et c'est pour ça que nous avons donc une pastorale qui s'est mise en place, demandée par nos évêques, de manière à ce que l'on puisse vraiment accompagner le pèlerin. Le pèlerin, pour moi, faire le chemin de Saint-Jacques, c'est être pèlerin, donc c'est être à l'écoute. Alors pour certains, bien sûr, tous ne partent pas chrétiens, mais il y en a beaucoup qui reviennent chrétiens, donc c'est pas plus mal. Et donc, effectivement, c'est un chemin d'humilité. C'est un chemin de souffrance, c'est un chemin de où on est dans l'être plutôt que dans le faire.
Tous ne partent pas chrétiens, vous disiez, Pierre Gardère, mais quelque part, c'est toujours une démarche de pèlerinage quand même. Est-ce que malgré nous, on part quand même pèlerin ?
Peut-être, certainement même. Je ne peux pas quand même me mettre à la place de tous les pèlerins qui partent. Déjà que... Bon, prenons l'exemple du Puy-en-Velay, puisque c'est le chemin le plus important ici en France. Ça démarre par une bénédiction. Les pèlerins arrivent, ils ont la messe dans la cathédrale du Puy-en-Velay, et qui se termine toujours par une bénédiction, souvent par l'évêque, quand l'évêque est là, donc leur donne la bénédiction du départ. Ensuite, effectivement, dans chaque lieu où ils résident, s'ils veulent la bénédiction, ils peuvent l'avoir par le prêtre de l'endroit où ils se trouvent, et surtout le lien qu'il peut y avoir entre le lieu où ils résident et le lieu où on peut éventuellement pratiquer sa religion.
Vous parlez des lieux où on réside. Alors, on le sait, sur les chemins de Saint-Jacques, ça s'est développé énormément, cette offre d'accueil, d'hébergement. Il faut dire, c'est important, que sur les chemins, l'Église a développé, elle aussi, tout un réseau d'hébergement et d'accueil. On parle d'une vraie pastorale, d'un vrai engagement de l'Église sur les chemins de Saint-Jacques depuis quelques années. C'est assez récent, en fait.
C'est récent, c'est-à-dire que bon, le pèlerinage a toujours existé, hein, depuis le premier évêque du Puy-en-Velay qui a fait le premier pèlerinage. Et depuis lors, donc, on remonte quand même aux années 1000, donc c'est quand même relativement loin. Les pèlerinages ont toujours existé, et toujours, il y a eu toujours des pèlerins. Et d'ailleurs, bon, un certain nombre de lieux dans les Hautes-Pyrénées sont symptomatiques du passage qu'il y a pu y avoir, puisque un certain nombre de lieux sont même inscrits à l'UNESCO pour la protection des églises en particulier, dans lesquelles éventuellement les gens pouvaient éventuellement pratiquer leur foi. Mais effectivement, il y avait un manque au niveau, en particulier de l'Église de France, mais c'est pareil en Espagne, parce que bon, quand les premières réunions qui ont eu lieu entre les évêques français et les évêques espagnols, on s'est rendu compte que la pastorale était à peu près la même, c'est-à-dire au même niveau. C'est-à-dire que les gens faisaient sur place un peu ce qu'ils pouvaient, je dirais même ce qu'ils voulaient, parce que bon, il y a quand même là aussi un certain nombre de gens se posaient beaucoup de questions par rapport aux gens qui passaient. Moi-même, j'avoue que j'étais pas du tout converti par rapport au chemin de Saint-Jacques, puisque je pensais que c'était de joyeux lurons qui arrivaient à la retraite et qui partaient pour aller faire un certain nombre de kilomètres pour soigner leur santé. Bon, on se rend compte que c'est pas du tout ça à partir du moment où on le pratique un petit peu, et puis surtout quand on est comme moi en pastoral, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Les gens ont vraiment un besoin, surtout de se retrouver, d'être. Parce que dans ce que nous vivons tous les jours, on se rend compte que on est toujours dans le faire. Et justement, un des problèmes qu'il y a eu là par rapport à la période que nous vivons maintenant, là, d'être confiné, on se rend compte que les gens ont besoin d'être, de faire. de faire, et ils ont oublié l'être. Or, ce chemin, justement, c'est un chemin où on peut être avant faire. Faire, oui, on est obligé d'aller d'un point à un autre, et ça, on est obligé de le faire.
On est obligé de mettre un pied devant l'autre.
Et oui, ça, c'est vrai. Ça, on est obligé de faire. On est obligé de dire bonjour aussi quand on arrive dans les haltes. On est obligé de prévoir. On est obligé de prévoir aussi les repas, etc. Donc, on est quand même dans le faire. Mais à partir du moment où on a démarré, à partir de ce moment-là, pendant une certaine période, même si on est en couple, même si on est à plusieurs, etc., il y a une période où on est sur l'être, où on peut se poser la question « qui suis-je ? Vers quoi je vais ? Et éventuellement, qui puis-je retrouver ?»
Il y a une certaine quête, même si on n'en est pas tout à fait conscient au départ, quand on part sur les chemins de Saint-Jacques, on est en quête de quelqu'un ou de quelque chose.
Ce n'est pas évident au départ. Il faut pas. Les gens sont souvent très surpris. Ici à Bagnères, on rencontre un certain nombre de gens qui ont déjà marché, puisque bon, nous, on n'est pas au départ d'un des chemins. On est presque au milieu. On les voit qui sont impatients d'arriver à Lourdes, parce que Lourdes, pour eux, c'est, pour beaucoup même, c'est la fin. Hein, c'est-à-dire que le chemin s'arrête à Lourdes. On sent effectivement le besoin de recherche de soi. De la recherche du moi, qui suis-je ? Qui suis-je, encore une fois ? Qui suis-je et vers quoi je vais ?
Alors, pourquoi c'est si compliqué de trouver réponse à ça dans la vie de tous les jours, dans le train-train quotidien ? Et pourquoi ça paraît, peut-être pas évident, mais en tous les cas beaucoup plus accessible quand on est sur les chemins, alors que finalement, il n'y a rien qui nous entoure ou peu de choses ?
Justement, ça nous permet de pouvoir nous calmer, ça permet de pouvoir nous poser, même si on marche, même si on se pose sur des problèmes, des soucis, des vitesses à laquelle on va. Dans la vie courante, bon, on va toujours à 200 à l'heure, 300 à l'heure, ça dépend de la personne. Mais enfin, bon, quelqu'un qui actuellement être père et mère de famille, c'est pas rien, parce que bon, il y a mille et une choses à faire, et on n'a pas le temps de réfléchir sur l'être. Et quand je le vois, puisque bon, quand même, j'ai quand même un certain âge, donc je rencontre un certain nombre de mes condisciples, disons, qui disent « Ah, les enfants sont partis, etc. J'ai enfin le temps de pouvoir m'occuper de ceci, de cela. » Mais souvent, c'est dans le faire. Et moi, j'ai toujours dit « Et pour toi, le temps, tu l'as ?» Et la réponse est souvent « Ah oui, tu as raison. » Ah oui, tu as raison. Donc, le chemin, c'est un moment de coupure. De coupure. Et bon, la vie reprend, la vie est là. La vie est là tous les jours, mais c'est une coupure. Et c'est là, si vous voulez, où on a justement un certain nombre de gens qui se posent la question sur Dieu. Et Dieu, pour moi, c'est quoi ?
Parce que c'est le moment où on est disposé à faire une place à l'inconnu ou à l'imprévu de Dieu, en tous les cas.
Tout à fait. En plus, bon, on a la création devant nous. Bon, quel que soit le lieu où l'on passe, il est différent du lieu où l'on habite. Donc, il y a un certain exotisme qui existe et qui fait que, effectivement, on se pose la question quand même. Dieu, enfin, on se pose la question de la création. Pourquoi ça c'est là ? Et qui l'a fait ? Et comment ça s'est fait ? Et comment on l'a fait vivre ? Voilà un petit peu, si vous voulez, les questions que l'on se pose sur ce chemin.
Alors parlons aussi du chemin de Saint-Jacques dans les Hautes-Pyrénées. Il y a plusieurs chemins pour aller à Compostelle. Celle qui traverse notre diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est la voie du Piémont. C'est une variante, comme on l'appelle, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait. Le chemin de départ, c'était le chemin d'Arles qui passe à Maubourguet, enfin, vous voyez, tout à fait au nord du département. Et donc une des variantes a été effectivement que les gens voulant, plutôt que passer à Toulouse, ont voulu passer par Lourdes. Donc ils ont longé les Pyrénées, mais c'est pas d'aujourd'hui. Longer les Pyrénées, ça a toujours été, puisque bon, on trouve encore une fois des lieux où les gens passaient, où il y avait des hospices, etc.
Donc et puis on a beaucoup de chapelles ou d'églises dans les Hautes-Pyrénées qui sont dédiées à Saint-Jacques.
Mais en fait, il n'empêche que maintenant, donc il y a quatre chemins en France, comme vous le savez, et une déviante du chemin d'Arles, donc c'est le chemin de Piémont. et le chemin de Piémont donc passe de Carcassonne, enfin pour simplifier, de Montpellier à Carcassonne et de Carcassonne à Lourdes. Et Lourdes, Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, si vous voulez. Alors, c'est celui qui est le plus important dans notre diocèse, puisque c'est celui le plus long. Parce que bon, Montbourguet, c'est vraiment très très court. Si vous regardez les guides où loger dans les Hautes-Pyrénées sur le chemin d'Arles, il y a Montbourguet et Laït-Taupière, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors que là, quand même, on a à partir de Montousset, ensuite on a quand même les baronnies, toutes les baronnies, donc le moulin de Sarlabousse, on a Bagnères, bien sûr, avec l'accueil de Notre-Dame, et on a Lourdes, bien sûr, avec la ruche en particulier, mais aussi un certain nombre comme la cité Saint-Pierre, enfin un certain nombre de lieux où à Lourdes on peut résider.
Combien de pèlerins empruntent cette voie-là chaque année ?
Oui, il faut être très prudent là, parce qu'on dit, on donne des chiffres qui sont vraiment tout à fait faux. Et moi, personnellement, je pense que pas plus de 800. Pas plus de 800 passent au moins pour la première partie, c'est-à-dire de Carcassonne à Lourdes, à peu près 800 par an. Et après Lourdes, effectivement, il y a une autre dynamique qui est différente. Là, c'est vraiment le pèlerin qui va faire le chemin, qui va aller peut-être jusqu'à Saint-Jacques. Mais bon, disons qu'elle est à peu près du double, quoi, 1400 à peu près, mais pas plus, non. Parce qu'après, bon, bien sûr, on a des chiffres exorbitants et les gens croient rêver en disant oh là, c'est la nouvelle Eldorado. Non, n'en rêvons pas. C'est pas le nouvel Eldorado.
Non, mais sans être nouvel Eldorado. C'est une aventure qui mérite d'être connue et qui mérite d'être faite. Alors, nous vivons une année Jacquaire. Une année Jacquaire, c'est quand le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche. En raison du contexte, cette année, en 2021, l'année Jacquaire, on a de la chance, elle va être double. Hein. Vous me disiez en préparant cette émission que, en fait, l'année Jacquaire, ça va être deux années Jacquaire. Ça permet d'ouvrir plus de perspectives et de prévoir peut-être plus de choses pour célébrer Saint-Jacques. Comment ça va se passer au niveau français et espagnol, et ici dans les Hautes-Pyrénées, comment on va célébrer Saint-Jacques ?
Alors, disons que 2021 est quand même une année un peu exceptionnelle. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus, puisque bon, on est quand même encore, on a encore ce problème de confinement qui nous a bien bloqués, au moins pour la première partie. Donc, si vous voulez, les évêques espagnols, et moi je trouve que c'est très raisonnable, ont décidé de le faire sur deux ans, c'est-à-dire que l'année Jacquaire donc sera 2021. Et 2022. Alors, 2021, bon, la première partie est donc passée, mais elle a été vraiment très escamotée, puisqu'il n'y a pratiquement personne, d'autant plus que, bon, là-bas, sur place, à Saint-Jacques, il n'y a rien jusqu'au 1er juillet. C'est-à-dire que bon, les lieux sont ouverts, mais c'est tout. Il n'y a pas de pèlerinage organisé, il n'y a rien d'organisé jusqu'au 1er juillet. Donc déjà, ça fait la moitié de l'année qui est morte. Donc la deuxième, c'est pour 2022, qui deviendra pratiquement 2021. Puisque, bon, en définitive, ce qui se fera en 2022, c'est ce qui aurait dû se faire en 2021. Alors, qu'est-ce qui va se faire ? Bon, ça a déjà été fait. Il y a eu une ouverture de l'année Jacquaire avec une porte de la Miséricorde qui est ouverte donc là-bas sur Saint-Jacques. Voilà. Et puis ensuite, dans les diocèses, il y a eu effectivement une messe ou un moment fort dans lequel, bon, effectivement, on a lancé l'année Jacquaire. Voilà. Mais c'est vraiment très, très... Pour 2021, c'est vraiment très, très, très confidentiel pour le moment. C'est pas eu...
C'est-à-dire qu'on avance à tâtons parce que le contexte fait qu'on est un petit peu obligé d'être prudent sur ce qu'on organise.
Oui, par la force des choses, parce que bon, on prévoit quelque chose et puis ça se fait pas, donc c'est toujours très mauvais, c'est pas la peine de l'organiser. Donc on attend vraiment que les choses se stabilisent pour vraiment pouvoir proposer une pastorale qui s'appelle une pastorale.
Côté français, combien de diocèses sont traversés par les chemins de Saint-Jacques ?
Alors, il y a à peu près une quarantaine de diocèses qui sont traversés par les chemins de Saint-Jacques, mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que les autres diocèses ne sont pas concernés, parce que des pèlerins, il y en a de partout. Il n'y en a pas que des chemins traversés par les chemins de Saint-Jacques. Il y en a vraiment de partout. C'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons avec Oued Compostela, parce que Oued Compostela fait appel aux évêques qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, mais tous les évêques de France sont concernés.
Oued Compostela, c'est une association qui rassemble et qui encourage toutes les initiatives chrétiennes sur le chemin.
Oui, tout à fait. Tout à fait, et qui s'occupe entre autres aussi de dynamiser et d'informer au niveau des gîtes en particulier, des haltes spirituelles qu'il peut y avoir, des renseignements sur tout ce qui est religion, hein, tout ce qui est catholique, mais même au-delà, puisque bon, par exemple au Mas d'Asile, bon, c'est un pasteur protestant qui s'occupe, si vous voulez, des gîtes et qui est très impliqué dans les chemins de Saint-Jacques. Ouais, le travail de Oued Compostela, il est là au départ, et de s'occuper aussi de toute la partie matérielle, c'est-à-dire donner un certain nombre d'informations matérielles sur ce chemin.
Pour vous, le chemin de Saint-Jacques, c'est un lieu de mission?
Ah oui, ça incontestablement. Incontestablement, c'est un lieu de mission parce que le pèlerin rencontre quelque chose de différent par rapport à ce qu'il vit chez lui. Donc automatiquement, il est nourri par ces rencontres. D'autre part, bon, il est clair que les gens, quand ils accueillent quelqu'un, bon, ben, c'est déjà une mission d'accueillir. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Il faut accueillir chez soi quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, tous les jours. Ou presque. Bon, moi je vois ici au niveau de Bagnères, puisque je peux en parler, puisque je suis partie prenante dans l'affaire. Bon, il y a 11 bénévoles qui s'occupent de ça.
À l'accueil Notre-Dame.
Mais qui le font avec un cœur extraordinaire. Donc, chemin de mission, oui, ils sont là pour la mission, ils sont là parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils ne sont pas chrétiens, mais qui veulent donner. Qui ont reçu et qui veulent donner. Donc pour moi, c'est important. Vous voyez, c'est quand même un lieu de mission, c'est incontestable. Vous savez, la conversion, quelle qu'elle soit, et qui que l'on soit, elle peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Donc si on n'a pas ces supports, comme le chemin de Saint-Jacques, eh bien, je crois qu'on peut passer à côté.
Pierre Gardère, vous êtes aussi vous-même pèlerin. Vous avez parcouru le chemin de Saint-Jacques. Qu'est-ce que ça vous a... appris. Qu'est-ce que vous avez appris en tant que chrétien sur les chemins de Saint-Jacques?
Je dirais, ce qui m'a surtout frappé, c'est la solitude. Quoi. C'est-à-dire qu'il nous arrive de faire, même si on est en groupe, faire quelques kilomètres tout seul. C'est-à-dire sans parler, sans... on peut se retrouver là, bien sûr, pour quelqu'un comme moi, qui suis ministre de l'Église, donc avec Dieu, avec la création, avec notre petit cœur, notre petit être, à vivre quelque chose d'exceptionnel. Parce que, bon, une aventure comme les chemins de Saint-Jacques, c'est pas rien. On part pas comme ça du matin à matin en se disant, je vais aller faire les chemins de Saint-Jacques. Non, c'est pas du tout ça. On l'a préparé. C'est un projet. Donc, le projet devient à partir de ce moment la réalité. Mais la réalité souvent dépasse ce qu'on peut s'imaginer. La rencontre avec un plus petit que soi, la rencontre avec un handicapé des fois, ça m'est arrivé de rencontrer des handicapés sur la route, avec des gens qui faisaient le chemin pour les accompagner, pour les porter, donc tout ça c'est très très fort et ça vous marque pour le restant de vos jours, hein. C'est pas quelque chose qui, même au niveau de la foi, c'est quelque chose au niveau humain qui est vraiment très très fort.
Voilà, donc c'est un encouragement, eh bien, à chausser ses baskets et son sac à dos sur le dos avec le bâton et le coquillage, bien sûr, et partir sur les chemins de Saint-Jacques. Merci beaucoup, Pierre Gardère.
Merci à vous.